du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu, texte de la liturgie catholique pour le cinquième dimanche. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait
« Vous êtes le sel de la terre. Si le sel devient fou, avec quoi le saler, il n'est plus assez fort pour rien, sinon être jeté dehors et piétiné par les humains. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située en haut d'une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe et on la met sous le boisseau, mais sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, que votre lumière brille devant les humains pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et disent la gloire de votre Père qui est dans les cieux. »
Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. N'est-ce pas une affirmation de Jésus plutôt incroyable, que certains pourront trouver prétentieuse?
Oui, André, et tout simplement impossible. Jésus ne dit pas d'ailleurs « seulement je suis la lumière du monde » comme on le retrouvera en Saint Jean, mais vous, mes disciples, vous êtes la lumière du monde. Alors comment comprendre cela? Eh bien, regardons où se trouve notre texte. Il est dans la grande charte que Jésus propose à ses disciples, cette charte que nous appelons le Sermon sur la montagne. Jésus a tracé les grandes lignes qui donnent la direction du bonheur. Vivre humble et doux, avoir faim et soif de droiture, être miséricordieux, être porteur de paix. C'est en vivant selon cette règle de vie que les disciples de Jésus marchent sur le chemin du bonheur et qu'ils font avancer la réalisation du règne de Dieu sur terre. Vous êtes sur le chemin du bonheur parce que le règne de Dieu est pour vous. Ce qui suit notre texte parle de l'attitude de Jésus face à la Torah. Il affirmera qu'il n'est pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Et cet accomplissement de la Torah sera précisé comme devant aboutir, pour les disciples, à vivre une droiture supérieure à celle des scribes. On aura toutes les oppositions. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Moi, je vous dis « Aimez vos ennemis ».
Il devrait donc y avoir un lien entre cette Torah renouvelée, cette droiture nouvelle, et l'affirmation de Jésus sur le sel et la lumière.
Eh bien, c'est ce que nous verrons. Vous êtes la lumière du monde. Dans la Bible de Moïse, la lumière du monde, c'est d'abord la Torah, la règle de vie donnée par Dieu. Alors regardons quelques textes. Le premier pris dans les Proverbes.
La directive du Seigneur est une lampe, et la règle une lumière, un chemin de vie.
Oui, tout juif est donc porteur de la lumière de Dieu dans la mesure où il vit selon la Torah de Dieu. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains au chapitre 2, décrit ainsi le juif.
Tu es convaincu d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que tu possèdes dans la Torah l'expression même de la connaissance et de la vérité.
Et Paul se fait ici l'écho des textes qui sont ceux des prophètes juifs, comme par exemple Isaïe au chapitre 42 dans sa description du serviteur de Dieu.
Moi, le Seigneur, je t'ai appelé à vivre dans la droiture, je t'ai saisi par la main et je t'ai modelé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple et la lumière des nations pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir le prisonnier de sa prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres.
Les Juifs étaient convaincus qu'un jour, d'ailleurs, cette lumière de la Torah qui les éclairait, qui les guidait, serait accessible à tous les peuples. On a un texte déjà du prophète Isaïe qui en fait foi.
Il arrivera que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Des peuples nombreux se mettront en marche vers elle qui diront « Venez, montons à la montagne du Dieu d'Israël. Dieu nous montrera ses chemins et nous suivrons sa voie. C'est de Jérusalem que vient la règle de la vie et la parole de Dieu. Venez, marchons vers la lumière du Seigneur. »
Donc les peuples nombreux, ce sont les païens qui vont monter vers Jérusalem pour eux aussi recevoir la Torah. On peut remarquer qu'il y a un parallèle d'ailleurs avec notre texte qui parle justement d'une ville située au sommet d'une montagne. Le prophète Isaïe va aussi parler du serviteur de Dieu dans des termes de lumière.
Je t'ai façonné et j'ai fait de toi l'alliance du peuple pour relever le pays. C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur pour relever les tribus d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne jusqu'aux extrémités de la terre.
Donc ce serviteur de Dieu qui est à la fois alliance du peuple et lumière des nations, eh bien c'est l'image du futur roi Messie. Mais c'est aussi déjà le modèle de tout le peuple de Dieu et c'est le modèle de chacun et de chacune des membres de ce peuple.
Comment prétendre que chacun des membres d'Israël, que chaque disciple de Jésus est lumière du monde?
Je pense qu'il faut bien comprendre. Le disciple de Jésus n'est pas la lumière. Il n'est pas la lumière parce que son comportement moral serait exemplaire. Le disciple de Jésus est un pécheur. Cette lumière qu'il porte en lui vient de Dieu, à travers la règle de vie, à travers les directives de l'Évangile, pour le juif, les directives de la Torah. Malgré les limites et les faiblesses du disciple, du serviteur, eh bien, il révèle la sagesse de Dieu qui les guide comme une lumière. Cyril d'Alexandrie dira plus tard à ses condisciples chrétiens
« Ce n'est pas vous qui vivez, mais elle vit en vous la lumière, qui est le Christ capable d'éclairer le monde entier par sa parole. »
Et Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, va écrire aussi
« Ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ Seigneur que nous proclamons. Le Dieu qui a dit « Que la lumière brille au milieu des ténèbres. » C'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous.
Voilà, la lumière, nous la portons dans des vases d'argile. Et c'est aux pauvres, c'est aux humbles, à qui il adresse une Torah renouvelée, que Jésus va dire qu'ils sont sel de la terre et lumière du monde. En effet, seuls ceux qui sont véritablement humbles peuvent recevoir et accueillir cette lumière parce qu'ils sont les seuls qui reçoivent et accueillent l'amour. Seuls ceux qui reçoivent l'amour peuvent éclairer le monde.
Jésus demande à ses disciples de ne pas mettre la lumière qui est en eux sous le boisseau. Qu'est-ce qu'un boisseau?
Mais il semble que c'était une espèce de baquet de forme tronconique et dont le fond était porté par 3 ou 4 pieds. Ce devait être le lieu de rangement de la lampe à huile dans les maisons palestiniennes de l'époque. Jésus invite donc ses disciples à ne pas mettre au placard la lumière de l'Évangile. C'est au contraire en voyant les bonnes œuvres des disciples que ceux qui ne connaissent peut-être pas le Dieu de Jésus pourront dire la grandeur de Dieu. La traduction officielle de la liturgie dit « C'est en voyant ce que vous faites de bien ». Et donc, ce que vous faites de bien traduit les bonnes œuvres. Mais dans la Bible, les bonnes œuvres, ce sont des actions bien précises. Ce sont des gestes de miséricorde. L'amour gratuit pour les pauvres, l'accueil, l'hospitalité, la visite des malades, le pardon. Isaïe, au chapitre 58, décrit ces gestes.
« partage ton pain avec la famine, héberge chez toi les pauvres sans-abri, donne un vêtement à celui que tu vois nu, ne te dérobe pas devant celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière se lèvera dans les ténèbres.
Oui, ces actions charitables, elles sont distinctes des 613 articles de la Torah. Ce sont des gestes qu'on accomplit en plus pour ceux envers qui on n'est pas obligé par la Torah. Des gestes qu'on accomplit gratuitement. Ces actions qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont accomplies que par amour, est-ce que ce n'est pas cette droiture supérieure à celle des scribes dont Jésus parle ? Ce sera aussi dans le chapitre 25 de Matthieu, au jugement dernier, les actions qui sauvent, qui donneront vraiment la vie éternelle à ceux qui les auront pratiquées. Par l'amour porté à tous les humains, quels qu'ils soient, les juifs et les chrétiens, imite Dieu dans sa miséricorde envers tous. Il témoigne donc de la lumière divine qui les habite et qui les fait vivre.
C'est Dieu, dans la manifestation de sa tendresse, qui rend le monde plus humain. Il me semble qu'on peut dire que nous recevons notre pleine humanité du divin. Vous êtes le sel de la terre. Que signifie cette image ?
Eh bien, dans la Bible, l'image du sel est employée de plusieurs manières. On pourrait en donner seulement deux exemples. D'une part, le sel est utilisé comme engrais pour la terre. Mais lorsqu'il est mêlé à trop de terre, il perd de son efficacité. Le sel est alors sans saveur, insipide. Être un sel dénaturé, c'est donc être comme quelqu'un qui a tellement dilué la parole de Dieu, la Torah, qu'il est devenu comme fou, sans sagesse. Donc ça, c'est la première image du sel qui est le symbole de la sagesse. Un deuxième usage du sel dans ces pays chauds où il n'y avait à l'époque pas de réfrigérateur, eh bien c'était de la conservation des aliments. On salait la viande et le poisson notamment. Et on continue d'ailleurs nous aussi à faire des conserves en mettant du sel. Le sel est alors l'image de ce qui peut conserver quelque chose intact. Et au sens figuré, eh bien, il va conserver une amitié. On parle ainsi d'alliance de sel, pour dire une amitié, une alliance indestructible et sacrée. Voici un exemple pris dans le deuxième livre des Chroniques.
Ne devriez-vous pas savoir que le Seigneur, le Dieu d'Israël, a donné la royauté à David pour toujours, à lui et à ses descendants? C'est une alliance de sel.
Oui, dans les pays d'Orient, encore aujourd'hui, on partage le pain et le sel pour accueillir quelqu'un et pour dire l'amitié. À ceux qui ne connaissent pas peuvent lire le merveilleux petit livre de Serge de Bourcueil qui s'intitule « Nous avons partagé le pain et le sel ». Le jeune élève musulman du frère Simon de Serge de Bourcueil, qui écrit ce livre et qui est un dominicain, vient un jour frapper à sa porte et lui dit « Je voudrais que vous veniez chez moi et nous partagerions le pain et le sel, puis je voudrais venir chez vous partager le pain et le sel et nous serions amis pour toujours. »
Quel sens choisir pour cette phrase de Jésus « Vous êtes le sel de la terre » ? Le symbole de la sagesse ou celui de l'amitié?
Les deux sens, d'une certaine manière, se complètent et se fusionnent. L'amitié, la communion avec Dieu, se fonde sur la sagesse de la Torah que l'on met en pratique. La table est le lieu où se concrétise et se manifeste l'alliance, la communion. Les textes juifs disent « Quand deux ou trois sont à table et parlent de la Torah, Dieu est au milieu d'eux ». Eh bien, être sel de la terre, c'est donc garder fidèlement la Torah, c'est mettre en pratique la sagesse de Dieu, et c'est donc aussi travailler à rendre toujours plus vivante l'alliance entre Dieu et son peuple, travailler à être des artisans d'unité entre tous les fils et les filles de Dieu.
La Bible éclaire-t-elle le rapprochement entre le sel et la lumière?
Eh bien oui, il y a dans la Bible de nombreux textes où deux mots reviennent souvent en couple, comme lumière et alliance, lumière et gloire. On a déjà cité au début un texte d'Isaïe au chapitre 49, « J'ai fait de toi l'alliance du peuple et la lumière des nations ». Lors de la présentation de Jésus au temple, le vieillard Siméon va le saluer en ces termes. « Maintenant, souverain maître, mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations, gloire de ton peuple. » Lumière et alliance, lumière et gloire. La gloire dans la Bible n'a en effet pas le sens que ce mot signifie en français, le prestige, la renommée. L'image du mot gloire est celle du poids de quelqu'un, de son importance. Pour Dieu, c'est son importance, c'est le poids de son amour, l'intensité infinie de son amour.
Mais quel rapprochement peut-on faire entre gloire et alliance?
Le mot gloire parle de l'amour de Dieu, un amour donc qui crée une communion avec les humains. Et donc, il est proche du mot alliance qui veut aussi traduire la communion entre Dieu et son peuple, entre le Père et ses fils. Remarquons aussi que dans les couples lumière et gloire, lumière et alliance, chaque fois, la lumière concerne les peuples, c'est-à-dire toutes les nations qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Et l'alliance, la gloire, concerne le peuple de Dieu. Dans l'expression « être celle de la terre », le mot « terre » ne désigne pas le monde en général, l'humanité en général, mais le peuple de Dieu. Et la deuxième béatitude dit que les doux recevront la terre en héritage. Eh bien là, la terre, c'est la famille des fils et des filles de Dieu, ceux qui seront comptés, accueillis par grâce. D'une part, le fidèle de Dieu doit être le sel de la terre, c'est-à-dire qu'il doit être une force d'amour et d'alliance qui va garder uni le peuple de Dieu, sa famille. D'autre part, Dieu et son fidèle seront lumière pour toutes les autres nations. Et Isaïe a déjà explicité cela dans la mission qu'il donne aux serviteurs de Dieu.
« C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, en relevant les tribus de Jacob et en remenant les préservés d'Israël. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'aux extrémités du monde. »
Oui, vous voyez, serviteur, tu l'es en refaisant l'unité d'Israël, relevant les tribus, ramenant les préservés, mais tu vas être aussi lumière des nations pour que ce salut, eh bien, atteigne le monde entier. Jésus reprend cela. Son disciple doit être sel de la terre pour garder vivante la fraternité au sein de la communauté chrétienne. Et les disciples doivent vivre fidèlement l'évangile, qui est l'évangile de la fraternité universelle, pour être lumière pour ceux qui ne sont pas chrétiens, que Jésus ici nomme le monde. Ainsi, on peut dire que ce qui est demandé aux serviteurs de Dieu, aux disciples, c'est de manifester que c'est l'amour de Dieu qui crée la communion de ses fils et de ses filles. Une communion qui ne se vit d'ailleurs que par la force divine du pardon. Et cette communion d'amour deviendra une lumière pour ceux qui la verront. Au premier siècle de l'Église, on disait des chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Pas non plus sans doute parce qu'ils étaient parfaits. Mais rappelons-nous que la communion entre les fils et les filles de Dieu n'est pas seulement le produit de leur effort, mais qu'elle est le fruit de l'amour de Dieu qui agit en eux et par eux. Toute communauté chrétienne est une communion de gens qui sont des pécheurs, mais qui sont sans cesse pardonnés, graciés par Dieu leur Père.
aujourd'hui être sel de la terre et la lumière du monde.
Est-ce que ça signifie que le chrétien a pour but de convertir la terre entière à sa foi? Comme on disait autrefois, hors de l'Église, pas de salut. Mais dans un très beau roman qui s'intitule « Le manuscrit du Saint-Sépulcre », je relève ce dialogue entre Tov, le juif, et Théo, le chrétien. C'est le juif qui parle.
Israël n'a jamais eu pour but de convertir le monde. Nous accueillons ceux qui existent, insistent pour pratiquer notre foi en les éprouvant longuement, en leur expliquant qu'ils se chargent d'un fardeau pesant. Il n'est pas besoin d'être un juif pratiquant pour être sauvé. Tous les hommes de bonne volonté seront sauvés.
Et les chrétiens non plus ne sont pas chargés de convertir. Vouloir convertir est devenu trop souvent synonyme de non-respect de l'autre, sinon de violence. Les chrétiens sont chargés non pas de convertir, mais de témoigner de l'amour de Dieu qui vit en eux. Au jugement dernier, on ne sera pas sauvé en exhibant son baptistère. La parole du jugement dernier en Matthieu 25 nous le dit clairement. Tout être qui aura été miséricordieux envers les plus démunis, qu'il soit juif, chrétien, bouddhiste, musulman ou autre, sera accueilli comme un fils, une fille de Dieu. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'étais malade, vous m'avez visité.
Par exemple, pensons à ce médecin bosniaque à Sarajevo qui a continué à soigner les blessés au risque de sa propre vie durant les 4 années de guerre. Et cela dans des conditions pénibles, sans électricité, sans eau, sans salaire. Cet homme est porteur d'une lumière qui nous a éclairés ici à Montréal.
Et oui, au soir de sa vie, d'ailleurs, Jésus a prié pour que l'unité de ses disciples soit un témoignage.
Je leur ai donné l'amour que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin que le monde reconnaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Voilà donc le témoignage chrétien, révéler que Dieu aime chaque humain d'un amour de Père, et faire connaître ce Dieu Père en nous aimant entre nous du même amour miséricordieux. Être témoin, ce n'est pas faire de la propagande, mais c'est faire mystère, comme on le dit quelquefois. Car l'amour vrai est un mystère qui nous dépasse. C'est une réalité qui est divine et que nous ne pouvons qu'accueillir du Père divin. Il nous faut nous aimer de telle façon que notre unité soit inexplicable si un Dieu d'amour n'existe pas. Cet amour de l'autre, on le voit, est bien plus que la justice sociale. Certes, il comprend la justice, mais il va plus loin. Il s'agit d'aimer l'autre, quel qu'il soit, le bon et le salaud, le pauvre et le truand, le sympathique et le révoltant. C'est là encore la droiture supérieure à celle des scribes. La source d'un tel amour ne se trouve pas dans nos seules forces humaines, elle ne peut être que divine. Notre souci de la justice, notre engagement pour un monde moins mauvais, ne seront vraiment chrétiens que s'ils manifestent la source de notre espérance, Dieu qui est amour et Père. Terminons en évoquant dans un texte de Luc Faneuf dans la revue 108 de Nouveaux Dialogues qui lance un cri de souffrance en face du suicide de tant de jeunes.
Les jeunes sont blessés et ont besoin plus que jamais d'adultes pour les aimer. Leur crise spirituelle est d'une profondeur insondable. Ils ne croient plus au mirage de bonheur, qu'il soit politique ou économique. Confrontés aux défis et aux épreuves de cette fin de siècle troublée, trop de jeunes se retrouvent alors devant leur vide intérieur. Les jeunes sont-ils indifférents à la chose religieuse? Non. Je dirais que la plupart sont en recherche, qu'ils vivent une quête spirituelle sérieuse. Pour séduire les jeunes, il faudrait que le christianisme retrouve sa pureté originelle. Les jeunes veulent être séduits par le Christ mystérieux qui les interpelle. Ils refusent en bloc un christianisme à l'eau de rose, mou et facile.
Eh bien, ce christianisme dans sa pureté originelle, c'est une église qui est une fraternité au nom de Jésus. Nos divisions, nos médiocrités ne sont pas témoignages de Jésus et de son évangile. Madeleine Delbrel avait de vibrants accents pour dire cette réalité.
L'Église, il faut s'acharner à la rendre aimable. Il faut s'acharner à éviter tout ce qui en elle rend son amour indéchiffrable. Il faut s'acharner à la rendre aimante. Son amour est en grande partie à notre merci. Cet amour est un élan vital vers toutes les extrémités de la terre, qu'elles soient géographiques ou sociales, les petits, les souffrants, les pauvres. Un élan interne vers tout ce qui est séparé par l'erreur, le péché. Les exigences de cet amour sont à la taille du Christ-Église et non à la nôtre. On ne peut les vivre que si nous intensifions notre appartenance intime, vitale au Christ dans l'Église.
Intensifier notre appartenance vitale à Jésus dans l'Église. Le Dieu de Jésus est un Dieu Père. Il veut réunir tous ses fils. Et il nous demande donc d'être des communautés qui soient des communautés signes de son projet de communion. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour gratuit que vous aurez les uns pour les autres. Voilà un christianisme qui est loin d'être mou et facile, mais qui conduit à un bonheur inépuisable, à une joie que rien ne peut nous ôter.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse exacte de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chères auditrices et auditeurs, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.